Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager.
Voilà, c'est les rendez-vous des leaders et managers. Salutations à vous. Vous êtes à l'écoute de la fréquence maternelle. Monsieur Simon Bosso, bonjour.
Bonjour Bob, bonjour à nos auditeurs, auditrices et internautes.
Voilà, aujourd'hui nous vous retrouvons après une semaine de rediffusion. C'était avec le professeur Bob. Il a parlé de l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Aujourd'hui, ça sera un thème, d'ailleurs, comme je l'ai annoncé le matin, très intéressant. C'est la gestion des réclamations.
Tout à fait, Bob. Nous entamons un nouveau thème, la gestion des réclamations. Quand vous faites des affaires, vous êtes une entreprise, vous produisez, vous commercialisez, vous vendez, vous même des services. Vous ne pouvez pas éviter des réclamations. Des réclamations parce que vous avez une clientèle. La clientèle est soit satisfaite, soit insatisfaite, soit partiellement satisfaite. Et quand il y a de l'insatisfaction, il y a des réclamations. Donc nous allons voir dans ce thème comment gérer les réclamations, bien gérer ses stocks, éviter des produits détériorés, éviter des risques et d'erreurs qui peuvent avoir des répercussions sur l'augmentation de vos coûts et sur la baisse de vos bénéfices. Nous allons donc dans ce thème essayer de voir comment trouver des solutions qui peuvent aider votre entreprise à obtenir un service client réactif qui met en œuvre des politiques de gestion de la clientèle et des retours rentable. De nos jours, les aspects économiques, socio-environnementaux et de développement durable occupent une place importante dans la prise de décision managériale. L'aspect économique n'est plus le seul à être considéré du point de vue de la bonne gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des aspects environnementaux, des aspects de développement durable, des aspects d'écologie. Et là, nous aborderons un aspect important de la gestion des réclamations, c'est la logistique inverse. Il y a la logistique classique qui amène les produits depuis les producteurs, même depuis les fournisseurs de matières premières, aux producteurs, du producteur aux distributeurs, les distributeurs aux grossistes et les grossistes aux commerçants, aux détaillants et les détaillants au consommateur, au client final. Tandis que la logistique inverse fait le chemin contraire. C'est les produits qui se trouvent au niveau du consommateur, des clients, qui retournent chez les vendeurs. Ces vendeurs, ils soient détaillants, soit grossistes. Et ces grossistes-là ou ces détaillants, les vendeurs, vont le retourner soit aux grands distributeurs, soit aux producteurs. Donc, nous avons dans la gestion des réclamations ce mouvement inverse, alors que dans la gestion commerciale, la gestion, la logistique normale, la logistique directe, on va du producteur au vendeur au client. Dans la logistique inverse, on va du client vers les vendeurs et les producteurs pour les tourner les produits qui ne répond pas à la satisfaction du besoin du client. Comme je l'ai souvent dit et répété, on ne vend pas un produit, un service, on vend une solution. Si le produit que vous avez vendu à un client n'a pas apporté la solution que le client attendait à son problème, il va donc faire une réclamation. Donc c'est très important pour un entrepreneur, pour un manager, un leader, un gestionnaire, de comprendre que l'importance et la nécessité de produire et de fabriquer des produits adaptés aux différents segments de marché identifiés et ciblés. Il en est de même pour les services. Les services, nous avons fait le marketing des services. Les services qu'on livre dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports, ce sont aussi des services qui peuvent donner satisfaction ou insatisfaction. Quand vous avez transporté un client, si vous vous retrouvez avec une panne d'essence, hein, une panne de carburant, ça arrive souvent avec nos motos, nos taxis, nos taxibus, vous vous retrouvez au milieu de la route. Les clients n'arrivent pas à destination, ça pose problème, mais ça suscite beaucoup de disputes. On voit souvent, sur la route, on voit des receveurs et des chauffeurs en train de se disputer avec des clients, ou même des chauffeurs qui, à cause des embouteillages qui nous suffoquent dans cette ville, arrivent à mi-chemin et disent « Non, moi, je ne peux plus continuer parce que la route est trop embouteillée, vous descendez tous ici. » Alors, mais les autres disent « Mais comment ? Alors, il faut nous rembourser le prix de notre transport. Ah non, on vous rembourse seulement la moitié. Mais nous, pour arriver à destination, nous allons encore payer un ticket entier. » Voilà, ça, ce sont vraiment c'est des questions qui relèvent de la gestion des réclamations. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, gestionnaire, il faut identifier les meilleures approches à adopter dans la chaîne de production et de distribution pour réduire au maximum les défauts de fabrication. Prévenir des cas comme ceux des pannes de carburant quand on est dans les transports ou des livrées. Moi-même, j'ai vécu hier un cas, j'avais acheté des montures, des lunettes pour mon épouse. Il a fait une semaine avec ça, ça s'est cassé. Je suis rentré chez l'opticien pour dire, voilà, ces montures n'étaient pas bonnes, c'est fragile, c'est pas possible après une semaine. Oh, ben, lui, il s'est mis à discuter en disant, non, c'est tellement, on les a fait tomber. Je dis, non, c'est pas tombé, c'était même sur son visage posé sur ses oreilles. Et la monture s'est détachée. Donc, nous allons voir dans cette série de missions comment donc ce qu'il faut faire pour bien gérer les réclamations. Nous allons voir quelques notions de base sur la logistique inverse et les différences avec la logistique directe. Comment nous allons parler de la gestion des retours, parce que les produits qu'on rentre dans l'entreprise, et enfin les causes des réclamations des clients et la procédure de résolution de celle-ci. Alors, la logistique est donc ce que je disais, tous les moyens qui sont utilisés pour acheminer un produit, hein, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Quand vous avez acheté des meubles dans un grand magasin, vous ne pouvez pas les transporter vous-même. Ni sur votre tête, ni sur une moto, même parfois si vous avez une petite voiture. Donc, il y a une logistique qu'il faut gérer. Et quand vous devez retourner un produit qui n'est pas approprié, il faut faire la logistique inverse. Donc, la logistique classique, que nous appelons la logistique directe, ça part, comme je disais, des flux de matières qui partent de ceux qui... Vous, si par exemple vous fabriquez du pain, vous êtes une boulangerie, vous achetez de la farine, donc vous partez du fournisseur de la farine, le producteur de la farine qui vous amène la farine, le fournisseur de la levure qui vous amène la levure, le fournisseur du sel, le fournisseur du sucre, et ça entre dans votre système de production. Et quand vous avez produit, donc, les matières premières viennent en amont, ça arrive chez vous, vous produisez, après avoir produit, vous allez peut-être fournir vos pains à des dépositaires. On voit des grandes boulangeries, ils ont des dépôts où les détaillants viennent s'approvisionner pour aller vendre. Donc, là, c'est la logistique directe ou classique. La logistique inverse, je le disais déjà, s'intéresse pour sa part aux flux connexes générés par les activités logistiques directes. Il y a donc, en plus des retours des produits qui sont défectués, il y a la gestion des déchets. Vous voyez, dans notre ville ici, moi, ça me fait mal au cœur quand je passe devant l'université Simon Kimbangu sur le Bongolo, quand vous voyez la rivière Bongolo. pleines de bouteilles en plastique qui bloquent même la circulation de l'eau. C'est la même chose de la rivière Makelele, même la rivière Kalamu, la rivière Gombe. Et ça crée des insalubrités. Vous voyez tous les emballages. Hein. Donc, on voit, ça fait partie des questions de la gestion inverse. Normalement, des entreprises qui utilisent des emballages qui ne sont pas biodégradables. On a pris des mesures d'interdire les emballages non biodégradables. On a obligé des entreprises parfois à récupérer leurs emballages, mais sur terrain, on ne voit vraiment pas cela se faire. Donc, c'est quelque chose qu'une entreprise, un bon entrepreneur doit intégrer dans son système, dans sa logistique, pour éviter d'abîmer l'environnement. Hein. Il y a une responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise vis-à-vis de la communauté. Quand vous produisez des gens qui viennent boire, vous avez un kiosque, un ligablo où vous vendez des boissons gazeuses ou même des boissons alcoolisées dans des bouteilles, que ce soit des bouteilles en plastique ou des bouteilles en verre. Et après, si ces bouteilles sont abandonnées, jetées dans la nature, c'est quelque chose qui est nocif pour la communauté et il faut essayer de corriger. Donc, ces flux inverses qui ont toujours été présents, étaient vus pratiquement comme un mal nécessaire dont le coût n'était que faiblement supporté par les entreprises. Or, depuis quelques années, avec le développement de mouvements écologiques, de verts, cet aspect des choses a changé notablement. Les poids économiques, quand il est en croissance continuelle, génère donc des effets. Hein, c'est ce qu'on appelle des effets externes qui peuvent être positifs ou négatifs. Et quand ils sont négatifs, comme le cas des déchets, des emballages, ça nuit à l'image de l'entreprise. Donc, la logistique inverse cherche à valoriser les flux inverses aux formes économiques, énergétique ou sociétale et s'inscrit dans la problématique plus large du développement durable. Logistique directe, je disais, on part du fournisseur, fournisseur vers l'entreprise, entreprise vendeur, vendeur client. Inverse, on part du client vers le vendeur vers l'entreprise et l'entreprise vers les fournisseurs. Les théoriciens ou les universitaires, les scientifiques définissent la logistique inverse comme un ensemble de pratiques et de processus destinés à gérer les retours des produits, des points de vente jusqu'aux fabricants, pour effectuer leur réparation, leur recyclage ou leur élimination au moindre coût possible. Et aujourd'hui, nous avons parlé il y a 2 semaines de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec la digitalisation du commerce, avec les commerces électroniques, les e-commerce, on a là aussi des nouvelles problématiques qui apparaissent, qui ont un impact direct sur la logistique. Car il a fallu actualiser les stratégies et les processus qui sont développés par les entreprises pour maintenir leur compétitivité. Dans le cas de la logistique inverse, ce sont les clients qui ont acheté des articles sur Internet qui effectuent directement les retours des marchandises. Donc, si vous avez acheté quelque chose sur Internet, il arrive souvent, on vient même ici à Kinshasa, ça se développe beaucoup, on vient vous fournir l'article que vous avez commandé, vous payez, et quand vous allez rester pour l'utiliser, si ça ne fonctionne pas bien, hein, vous devez maintenant contacter l'entreprise ou le commerçant qui vous l'a vendu. Généralement, les gens viennent livrer par moto. Maintenant, soit vous vous entendez avec les vendeurs qui vous envoient, les motards qui vous amènent les produits pour venir les récupérer, ou si vous pouvez trouver une adresse du vendeur, vous allez vous-même aller lui ramener les produits qui ne vous a pas satisfait. Et là se pose le problème, qui va payer les coûts, le prix des transports, le prix de la logistique inverse. Donc la logistique inverse peut être envisagée depuis deux points de vue différents. Du point de vue de l'entreprise qui va s'occuper des retours, veiller à ce que l'augmentation des retours ne vienne pas trop impacter ses stocks et dans ses inventaires. Et du point de vue de l'écologie, l'un des objectifs de la logistique inverse est de minimiser l'impact environnemental qui découle de l'activité des entreprises. J'ai parlé des bouteilles en plastique, même des bouteilles en verre, et des cartons et autres produits, matières, des emballages qui sont abandonnés à travers la cité et qui encombrent parfois nos rivières, qui créent des tas d'ordures, surtout dans les marchés, Et les entreprises doivent développer des produits et des processus qui, dès le départ, qui soient moins nuisibles pour l'environnement. Alors, pourquoi les produits sont-ils retournés? Donc, quand vous êtes vendeur des produits, vous devez toujours savoir qu'est-ce qui peut causer les retours des produits à votre entreprise. La première raison, c'est que le client est mécontent du produit. Est mécontent, il n'est pas satisfait. Parce que le produit ne correspond pas à ses attentes ni à ses souhaits. Il a voulu avoir, j'ai parlé des lunettes tout à l'heure, quand vous avez acheté une paire de lunettes, en fonction si vous avez des problèmes de lecture, si après, quand vous arrivez chez vous, vous prenez un livre, vous voulez commencer à lire, vous constatez que les unités telles que on vous les a mises sur vos verres ne vous permettent pas de déchiffrer correctement les lettres qui sont en face de vous. Donc, vous n'êtes pas satisfait. C'est une raison qui peut justifier de retourner. Vous pouvez avoir peut-être c'était une boisson que le goût n'est pas celui auquel vous vous attendiez. Même un véhicule, vous avez acheté un véhicule et puis quand vous démarrez, vous constatez qu'il n'a pas la qualité, l'aisance, le confort que vous souhaitiez. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le produit est défectueux. Donc, la première, c'était qu'on est mécontent. On est mécontent, ça peut être un problème de goût, de couleur, de réponse aux besoins et à vos attentes. Mais la deuxième raison, c'est que le produit est vraiment défectueux, parce que parfois nous achetons des produits qui sont déjà défectueux. Moi, il m'est arrivé une fois, j'avais acheté une dentifrice dans une boutique. Quand je l'ai ouvert, j'ai essayé de brosser les dents, mais ça m'a piqué, ça m'a brûlé les lèvres. Donc, il peut y avoir des produits qui sont périmés. Et vous voyez, dans les grands supermarchés, on fait des promotions, des rabais sur des produits qui arrivent presque à expiration. Mais je vois souvent, il y a des commerçants qui viennent acheter ces produits en masse et ils vont les revendre. Et si c'est des produits qui vont être périmés dans une semaine ou dans deux semaines, eux, ils continuent à les vendre au-delà des dates prévues. C'est déjà quelque chose de malhonnête. Ce n'est pas, c'est contraire à la déontologie des affaires. Et on apprend même que dans certains supermarchés, les gens là-bas s'arrangent à corriger les dates de péremption. Un produit qui devait périmer au mois de mai, à la place du mois de mai, on change, on met le mois de septembre. Bon, par exemple, là où il y avait si ça devait se périmer en février, on avait mis 0,2. On efface les zéros, on met 1, que ça devient périmé en décembre. Et l'acheteur de bonne foi va acheter ces produits-là. Et s'il va les consommer au-delà du mois de février, ça va lui causer des problèmes de santé. Et donc là, un produit qui présente un ou des défauts, on doit le retourner au vendeur et le vendeur doit se charger de le retourner au producteur. Troisième raison, c'est l'article est devenu obsolète. Obsolète, là, nous parlons de durée de vie. Hein, le produit défectueux, c'est un produit qui a un défaut de qualité. Ici, c'est un produit qui a épuisé son cycle de vie, qui est dans la phase de déclin. Normalement, le consommateur n'en veut plus du tout. Donc, le produit qui ne sont plus à la mode, sans être défectueux, mais qui n'est plus à la mode. Vous savez, par exemple, dans les domaines vestimentaires, nous qui sommes dans cette ville depuis des années, on a connu plusieurs modes. Il y a eu des pantalons taille basse, il y a eu des pantalons éléphants, il y a eu des pantalons cataps, il y a des slims. Donc, ça change. Il y a des périodes où vous voyez les gens portaient des pantalons avec des pattes d'éléphant. Après, c'est le cataps avec des petites tailles. Et quand c'est la mode qui change, si vous avez encore des produits qui ne sont pas à la mode, quand un client achète sans se rendre compte, quand il va arriver, chez lui, il regarde, il dit non, ça ce n'est plus, c'est pas ce que je souhaitais. C'est une mode qui est dépassée. Il y a une quatrième raison, c'est un excès de stock. Si vous êtes producteur, vous vendez à des distributeurs, vous vendez à des détaillants, qui se retrouvent avec un excès de stock si la rotation n'est pas rapide pour éviter que les produits ne puissent rester dans les stocks longtemps dans ma boutique, par exemple. J'ai dit non, je retourne une partie chez les grossistes ou chez les producteurs pour pouvoir dégager de l'espace chez moi et mettre d'autres produits. Donc, c'est pour éviter de garder trop de stocks et qui vous empêche de pouvoir placer d'autres marchandises. Et il y a une cinquième raison, c'est l'inventaire saisonnier. Donc, les produits qui sont vendus qu'à des périodes précises. Nous, ici, on a que deux grandes saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Et la saison sèche, ça dure pas longtemps, 2 à 3 mois. Et là, on vend des produits et des vêtements chauds. Mais en Europe, en Amérique, en Occident, là où il y a 4 saisons, à chaque saison, on change des produits dans les rayons et les produits de l'autre saison qu'on n'a pas pu vendre, on les retourne. Et là, même chez les producteurs ou chez les distributeurs. Donc, mais en gros, nous pouvons dire, pour nous résumer aujourd'hui, que tout est lié à l'insatisfaction du client. C'est l'insatisfaction du client qui est à la base des réclamations. Et les deux grandes causes d'insatisfaction du client sont l'inadaptation du service proposé au client concerné, le support physique inadéquat effectué, parfois incompétence du personnel d'exploitation, inaccessibilité du ou des services. Deuxième grande raison, c'est la survenue d'un incident. S'il y a un incident, l'importance de la récupération des incidents pour de redonner confiance au client est important et de fidéliser. L'incident est le premier facteur qui amène les clients à aller à la concurrence. Quand un client est insatisfait, quand il vient réclamer, si on l'accueille mal, on ne veut pas le comprendre, on veut lui imputer la faute de sa réclamation, généralement, son mécontentement va les pousser à aller chez le concurrent. Voilà, chers auditeurs, auditrices et internautes, pour le premier exposé de ce grand thème de la gestion des réclamations. Nous allons nous arrêter là pour nous donner le temps de pouvoir interagir Merci beaucoup pour votre écoute active.
Voilà, merci à vous, monsieur Simon Monson. Nous sommes en direct de la gestion des réclamations. Contactez-nous au 081-99-66-098 pour participer à cette émission en direct, bien sûr. 081-99-66-098. Pause musicale avant de vous lire. Voilà, merci à Clément pour ces cantiques. 081-99-66-098. Les numéros pour participer à cette émission Leader et Manager. Nous parlons de la gestion des réclamations. 081-99-66-098. Et contactez-nous à partir de ces numéros. Nous allons vous donner la parole pour participer à cette émission. Je vais prendre cette question. Je pense que c'est une contribution. Merci pour l'exposé vraiment. Je viens de comprendre. C'est notre frère depuis Ituri. Merci beaucoup qui nous a écrit. Il a compris votre exposé. Voilà. Donc en fait, comme notre frère depuis Ituri. Au 081-99-66-098. C'est notre numéro pour participer à cette émission, la gestion des réclamations. Bonjour, monsieur Simon Bosso. Bonjour, Bob. Et merci pour cette émission. C'est Fabien depuis la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Monsieur Simon, quels sont les types de réclamations qu'on paie de temps en temps apporter dans une entreprise, vous en tant que manager? Et j'aimerais aussi savoir quelles actions correctives sont prises à la suite des réclamations récurrentes. Merci pour l'émission.
Merci beaucoup à notre frère Fabien pour vos deux questions. Quel type de réclamation? Comme je disais, les réclamations dépendent. Il y avait cinq niveaux que nous avons évoqués. La première, c'est le mécontentement du client par rapport aux produits. Les produits ne répondent pas à ses attentes. Les produits ou les services que vous vendez à un client, c'est pour résoudre un problème. Si les produits qu'il a acheté, même si c'est un produit de bonne qualité, ne résout pas son problème, ne répond pas. Par exemple, quand un client achète un climatiseur, un climatiseur qui est de bonne qualité, qui fonctionne, mais dont la capacité ne suffit pas à rafraîchir son salon, parce que son salon est grand, et vous lui avez vendu, par exemple, un climatiseur de 6000 BTU, alors que le salon-là nécessite un climatiseur de 12000 BTU, il va être insatisfait, il va dire non. Et je vous avais dit que j'ai un salon de 20 mètres carrés et vous m'avez proposé un climatiseur qui fonctionne mais qui ne donne pas, qui ne rafraîchit pas, donc je ne suis pas d'accord avec ça, je vais le retourner. Donc la première raison, c'est l'insatisfaction du produit par rapport à ses attentes, à ses besoins, à ses souhaits. Le deuxième, c'est que le produit est défectué. Hein. Vous savez, il y a des produits qui viennent de l'usine défectuée. On a suivi dernièrement sur les réseaux sociaux, même dans les télévisions, qu'une firme comme Toyota a dû rapatrier plusieurs des milliers de véhicules qui avaient un défaut. Certains produits, je crois que il y a Coca-Cola aussi en Belgique qui a eu un problème pareil. Donc, il y a un défaut de fabrication où il y a eu un excès de sucre ou du sel sur un produit. Alors, les gens comme nous, les vieux, nous ne consommons pas du sel. Quand j'achète un produit, on a qui a été abîmé, il y a eu un défaut au niveau de la fabrication, au niveau de la composition. Et le cas d'un produit qui est obsolète, qui n'est plus à la mode, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez acheter un appareil de téléphone, généralement, aujourd'hui, les gens sont sur Android, mais bon, si vous n'avez pas quelqu'un qui a des moyens pour acheter un appareil de téléphone Android, si vous lui vendez un appareil à touche, il n'a pas fait attention. Quand il arrive chez lui, quand il va ouvrir, il dit non, mais ce n'est pas ça ce que je voulais. Ça, c'est obsolète par rapport aux besoins que j'ai pour faire mes recherches, pour entrer dans des applications qui me permettent d'accéder à certains avantages. Ce produit-là est obsolète. C'est une raison pour retourner, pour être insatisfait. Et les autres raisons, ce sont des raisons liées à un excès de stock ou à des raisons saisonnières. Un produit qu'on a acheté, par exemple, pour quand il faisait chaud et quand il fait froid, une chemise légère. Quand vous arrivez, la saison change, on ne sait plus garder ces stocks-là parce que les clients ne seront pas intéressés à les acheter. Et comment les résoudre? Donc, par rapport, il faut trouver chaque fois la raison, les facteurs qui est à la base de l'insatisfaction et répondre à ces facteurs-là, veiller à éviter tout ce qui peut provoquer des mécontentements. Et là, il faut avoir des vendeurs professionnels qui peuvent bien comprendre les besoins des clients pour leur proposer ce qui leur convient. Et quand le client est mécontent, il faut pas, il y a beaucoup, ici chez nous, on voit vraiment des vendeurs qui sont parfois arrogants, même insolents vis-à-vis des clients. Les clients, c'est lui qui vous permet de vivre, d'évoluer, de progresser, de gagner de l'argent. Quand il est mécontent, il faut l'écouter, il faut avoir de l'empathie, vous mettre à sa place, avoir de l'humilité par rapport à ses réclamations pour bien les comprendre et pouvoir leur apporter des réponses. Quand vous ne leur apportez pas des réponses qui sont pertinentes, qui sont favorables, qui résolvent leurs problèmes, ils vont vous quitter pour aller chez les concurrents. Voilà, notre frère Fabien, en gros, ce que je peux vous répondre.
Voilà, nous poursuivons 081-99-66-098. Bonjour, merci pour l'émission. C'est le frère Ikapia Nguibien, Rostand, depuis Bandunduville. Merci de nous suivre depuis Bandunduville. Au 081-99-66-098, écrivez-nous. Bonjour, Radio Maria, c'est Monsieur Soleil depuis Lubumbashi. Merci à M. Simon Bosso pour l'émission. Comment informer les clients de l'état de l'avancement de sa réclamation?
Merci à notre frère Soleil. Comment informer les clients de l'état d'avancement de sa réclamation? Si les clients vous ont envoyé par exemple un message ou ils vous ont appelé au téléphone pour réclamer et qu'il a retourné son produit, vous devez pouvoir lui indiquer les délais dans lesquels vous allez lui apporter la réponse. Hein. Appelez la personne, vous dites, bon, voilà, s'il a besoin de ces produits-là, il a besoin de ces produits-là, il vous l'a retourné. Hein. Quelqu'un qui avait achetés quand j'ai parlé des climatiseurs tout à l'heure, climatiseurs qui n'étaient pas conformes à ces besoins, vous pouvez vérifier dans les stocks chez vous. Si vous n'avez pas l'appareil dont il a besoin à ce moment-là pour les livrer tout de suite, vous devez pouvoir lui dire, nous allons commander les produits, votre produit, chez notre fournisseur. Et vous êtes censé connaître vos délais dans lesquels vous êtes livré par votre fournisseur pour lui dire, voilà, c'est dans 8 jours que vous allez être servi. Il y a même des entreprises qui prêtent quelque chose qu'ils ont chez eux pour dire, voilà, en attendant que les produits votre produit arrive, nous pouvons vous dépanner avec un appareil similaire pour vous permettre de tenir pendant la semaine où la commande va arriver. C'est vraiment important. L'incertitude, c'est la pire des choses qu'il faut avoir dans les affaires. Parce que quelqu'un, quand il ne sait pas quand il va être satisfait, quand est-ce qu'on va lui apporter la solution à son problème, il devient anxieux, il devient nerveux, il devient stressé et il risque de vous quitter pour aller chercher la solution ailleurs.
Merci beaucoup. Message de Madame Annie Louboya depuis la paroisse Saint-Paul Miki. Bonjour Monsieur Simon Bosso. Bonjour Bob. Merci pour l'émission Leader et Manager. J'aimerais savoir les délais du traitement ou des traitements d'une réclamation. Pourquoi je pose cette question? Dans une école, il y a une boîte à suggestions. J'ai déposé ma lettre. Un mois après, il n'y a pas de changements. J'ai déposé encore une autre lettre. 2 semaines après, il n'y a pas de changements. Aidez-moi à comprendre ma préoccupation. Merci pour cette émission.
Merci beaucoup, Mamani Louboya. Normalement, il n'y a pas de délai aussi long pour traiter une réclamation. Une réclamation, surtout, bon, dans une école, il y a un directeur d'école ou un préfet de discipline, tout ça. Il y a des domaines où il y a des lois qui fixent des délais, généralement dans les domaines de la justice, on dit que vous devez répondre à la réclamation pendant 8 jours, dans les délais de 8 jours. Si dans les 8 jours, vous n'avez pas répondu, là, on peut considérer que la requête de la personne qui vous a posé le problème est acceptée. Donc, si c'est un domaine où il y a des lois, il n'y a que les lois qui fixent des délais. Mais ici, on est dans le domaine des affaires ou dans le domaine de l'organisation. Même l'école, c'est une ASBL, c'est une organisation qui doit rendre un service à une communauté. La réaction doit être le plus court possible. Parce que si vous posez, vous réclamez, par exemple, je prends le cas d'un élève d'un étudiant qui a réclamé pour ces points qui n'ont pas été retranscrits ou retranscrits correctement, plus ça traîne, plus il ne sait pas s'il va passer des classes ou s'il va passer la deuxième session. C'est embêtant. Il y a des règlements intérieurs. Par exemple, pour le cas de l'école, j'espère que cette école a un règlement d'ordre intérieur. Il faut essayer de le consulter pour savoir si, quand il y a des problèmes qui nécessitent des réclamations, quel est le délai que la direction a pour devoir répondre. Sinon, alors, il faut monter vers l'inspection. L'inspection pour aller vous plaindre de la réaction du comportement de la direction de cette école. Merci beaucoup, Mamani.
Toujours en rapport avec la question des Mamani, Monsieur Simo, est-ce que il faut toujours regarder ces systèmes à vue l'évolution de la technologie, boîte à suggestion? Parce qu'elle a totalement raison. Il y a des réclamations comme ça, vous déposez, vous glissez, on n'ouvre pas la boîte. Est-ce qu'il faut changer des méthodes? Dans d'autres entreprises, on remarque il y a une tablette où on vous propose mention bonne, très bien, ainsi de suite. Mais on ne sait pas vraiment, tu ne sais pas vraiment exprimer ta réclamation. Comment expliquer?
Mais le problème n'est pas la boîte à suggestions. Le problème, c'est la réactivité des dirigeants, des responsables de l'école. Ils ont instauré un système qui leur permet de recevoir les réclamations, de recevoir les plaintes ou même des propositions positives de leurs clients ou de leurs des parents de leurs enfants ou de même des élèves. Mais s'ils n'exploitent pas ces systèmes qu'ils ont mis en place, ils ne réagissent pas. Comme je le disais, l'incident qui n'est pas bien géré, c'est le premier facteur de passage à la concurrence. Si moi, mon enfant est dans une école où il y a un problème, j'ai saisi la direction par le canal de la boîte à suggestions, je n'ai pas de réponse. J'ai saisi la deuxième fois, je n'ai pas de réponse. Soit je vais aller me plaindre plus haut, ou bien je vais m'arranger dès la prochaine rentrée, je vais enlever mon enfant de cette école pour le mettre dans une école où les gens sont beaucoup plus responsables.
Voilà. Voilà, 081 99 66 098. Je prends cette question depuis Matadi. Bonjour Monsieur Simo, bonjour cher journaliste. Merci pour cette émission et j'ai une préoccupation en tant qu'entrepreneur. Est-ce que on peut disposer des affiches ou des formulaires pour remettre aux clients, les forcer à proposer ou à écrire les réclamations ou ça va venir des clients eux-mêmes?
C'est une bonne question. Les deux sont valables. Il y a des réclamations, un client qui n'est pas satisfait, qui va de lui-même faire une réclamation. Mais vous pouvez, vous comme entrepreneur, faire ce qu'on appelle des enquêtes de satisfaction. Vous pouvez envoyer, faire des formulaires où vous interrogez vos clients, est-ce que vous avez été satisfait de notre produit, de tel produit, vous avez été très satisfait, bien satisfait, moins bien satisfait, et quels sont les éléments que vous n'avez pas trouvé favorables, quels sont les éléments que vous avez trouvé favorables, quels sont les éléments négatifs. Ça vous permet d'avoir des retours d'informations sur la manière dont vos produits ou vos services sont accueillis par votre clientèle. Et ça vous permet vous-même d'anticiper, d'améliorer certaines situations au lieu que ça tende de réclamations. La meilleure, comme les médecins disent, la meilleure traitement, c'est la prévention. Si vous pouvez prévenir les risques d'avoir des retours des produits, d'avoir des produits défectueux, ça va vous coûter moins cher que si vous les laissez arriver. Hein. Si vous avez vendu un produit avec des défauts, vous devez réparer ces défauts-là ou changer un autre produit et ça va vous entraîner des coûts qui vont affecter votre bénéfice. Voilà.
Il y a une réaction de Bandundu, Ikapia. Comment nous, les acheteurs, pouvons connaître que ces produits sont déjà épuisés, tandis qu'on a changé la date de péremption par des vendeurs. Et si possible, nous pouvons avoir les services pour vérifier les choses épuisées chez les vendeurs. C'est notre frère depuis Bandunduville, Ikapia.
Merci à notre frère Ikapia. La grande faiblesse que nous avons dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de fortes associations de consommateurs qui sont puissantes. Normalement, dans des pays bien organisés, il y a des associations de consommateurs qui s'organisent, qui suivent. Parce que individuellement, c'est difficile à vous de faire ce genre de choses-là. Mais si vous avez des associations qui sont organisées, qui de temps en temps, et qui organisent des enquêtes, qui passent dans des magasins, chez des grossistes, dans des supermarchés, et ils voient les étiquettes. Hein, ça arrive souvent. Moi, ça m'arrive quand je passe comme enseignant et chercheur dans le management et le marketing. Je regarde les étiquettes. Je vois parfois des produits qui sont déjà périmés. J'ai vu à la télévision dernièrement des gens qui ont acheté de l'eau dans un supermarché, de l'eau qui était mauvaise. Les goûter l'eau était mauvaise. Ils sont rentrés pour protester. On a sorti d'autres bouteilles pour essayer, c'était mauvais. Et ces gens-là ont enlevé rapidement de rayon toutes les bouteilles qui restaient. Mais s'il y a des groupements de consommateurs bien organisés, ils peuvent porter plainte contre Ces gens, on voit ça surtout pour les médicaments. Quand nous voyons des médicaments qui sont étalés à même les sols, sous les soleils, et qui sont affectés, qui n'ont plus les mêmes pouvoirs de guérison. Mais souvent, les produits périmés, quand ils ont changé de date, vous allez les constater à la consommation. Hein. Et ces produits-là, je vois par exemple des savons liquides, des gels douche, quand ils ont dépassé les dates de péremption, ils commencent à sortir beaucoup de mousse. Et quand vous achetez ça, quand vous mettez dans l'eau, ce n'est plus moussant, même des boissons comme la bière. Normalement, quand c'est bien frais, quand vous mettez dans le verre, ça sort de mousse. Mais quand il n'y a plus de mousse totalement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a, pour des produits que vous consommez régulièrement, vous devez pouvoir essayer de connaître leurs principes actifs, hein, voir comment ces produits-là réagissent, agissent quand ils sont en bon état. Et quand ils ne sont pas en bon état, il y a des réactions. On voit que ces produits-là sont beaucoup moins efficaces. Alors, quand vous utilisez un savon qui ne nettoie plus comme d'habitude, vous devez vous poser des questions. Et en faisant peut-être des petites enquêtes, vous pouvez constater qu'on a peut-être traficoté sur les dates. Parfois, quand vous regardez bien aussi sur les boîtes, hein, quand vous voyez que la date d'expiration n'est pas claire, on ne voit pas bien les chiffres là parce qu'on a essayé de les effacer, de tripoter un peu pour que ce ne soit pas bien visible. Il faut vous méfier, il ne faut pas acheter. Il faut acheter là où vous voyez que les dates sont clairement apparentes.
Très bien. Nous terminons déjà l'émission, mais nous terminons avec cette question, M. Simon Bosso. Une seule réclamation suffit pour améliorer ou il y a un pourcentage de réclamations avant de passer à un changement?
Ben, même une seule réclamation, c'est-à-dire que c'est l'entrepreneur, le commerçant, l'entreprise, le vendeur qui doit veiller à ce qu'il n'ait pas beaucoup de réclamations.
N'oubliez pas aussi les clients, c'est caprice. Hein?
Oui, les clients, c'est caprice, c'est normal, les clients peuvent avoir ses caprices. Si sa réclamation n'est pas fondée, un client peut ne pas avoir... Moi, j'ai vu un cas qui m'est arrivé. J'avais acheté une montre tu vois les montres électroniques qui permettent de compter les pas quand tu marches. Tout ça. Bon, après 3 jours, la montre ne s'allumait plus. J'ai failli aller retourner la montre. Moi, j'ai mon fils qui est informaticien, qui a la même montre. Quand je l'ai appelé, il m'a dit « Non, mais papa, tu n'as pas rechargé. » Bon, moi, je ne croyais pas qu'on rechargeait déjà après. Or, ça fonctionne exactement comme les appareils de téléphone. Hein, il y a un câble de recharge qu'il faut mettre là pour
recharger la batterie.
Donc, ça, c'est une caprice. Si j'étais rentré là, ça aurait été une caprice. Il m'a dit « Mais non, monsieur, mais... » Bon, c'est un problème là aussi où le vendeur a failli parce qu'il ne m'a pas expliqué cet aspect-là. Il m'a donné une boîte. Bon, je suis allé, j'ai mis la montre, ça s'est déchargé. Je ne savais pas que c'était rechargeable. Donc, il faut donner la bonne information. Les personnels de contact, les vendeurs, il faut qu'ils soient bien formés pour qu'ils puissent... Une entreprise doit éviter qu'on lui amène beaucoup de retours de produits qui sont défectueux, qui sont périmés, soit qui n'ont pas répondu aux besoins, parce que c'est lui qui va... Hein, tu avais déjà encaissé l'argent, tu es obligé de le rembourser pour remettre, ou tu dois faire une réparation qui va te coûter de l'argent. Donc, ce n'est pas l'intérêt d'un vendeur de tromper ses clients, parce qu'ils finiront par découvrir s'il y a des choses qui ne vont pas, et ils vont le quitter, et c'est lui qui sera perdant.
Très bien, merci beaucoup à vous, M. Simon Bosso. Nous allons poursuivre, continuer Leader et Manager. Votre numéro pour ceux qui désirent vous parler au-dessus de l'oreille.
Voilà, je rappelle mon numéro, le 085 0151 720. 085 0151 720. Bonne semaine à toutes et à tous.
Voilà, merci à Clément Moulopo qui a réalisé cette émission. À vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, prenez en compte nos réclamations. Et c'est terminé.
Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis.